célébrerons effectivement de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, et ce sera la première d'une série d'émissions sur Berlin, toute l'histoire de cette ville en 5 émissions jusqu'à mardi prochain, et aujourd'hui, Berlin, de la Prusse à l'Empire.
Berlin est plus un continent qu'une ville. Jean-Paul Richter.
Deux mille ans d'histoire. Lorsque son nom apparaît pour la première fois au début du XIIIe siècle, Berlin n'est encore qu'un village parmi d'autres, perdu dans les marais sur la rive nord de la Spree. Personne ne pouvait alors imaginer le fabuleux destin de cette ville, devenue au fil du temps capitale d'un État, puis de trois empires. Ville des Lumières sous Frédéric II, ville d'avant-garde dans les années 20, mais aussi capitale du nazisme sous Hitler, elle fut ravagée par deux guerres, occupée quatre fois, et même coupée en deux pendant 28 ans par un mur, qui n'a pas seulement divisé une ville, mais le monde entier en deux blocs. Un mur dont la chute, il y a 10 ans, fut un des plus grands moments de l'histoire de ce siècle. Rappelez-vous, c'était le 9 novembre 1989.
Berlin, cette nuit, les portes s'ouvrent.
Der Antrieb ist eigentlich der, ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt.
Cyril Buffet, bonjour.
Bonjour.
Et merci de venir inaugurer cette série donc de 5 émissions que nous allons consacrer à Berlin à l'occasion du 10e anniversaire de la chute du mur, un événement, on vient de l'entendre, aussi extraordinaire que peut l'être Berlin, que vous connaissez bien, et de laquelle vous dites au début d'un de vos livres, la plupart des villes ont une histoire, Berlin a un destin.
Vous avez résumé, hein, il est incroyable qu'une ville qui n'est pas très vieille quand même pour les métropoles européennes, 8 siècles, a eu tellement de péripéties. Et qui est une petite bourgade quand même au début, dans les marges, sur les marges de la chrétienté, et qui a explosé littéralement à partir du XVIIIe siècle pour s'imposer parmi les grandes métropoles européennes.
Entre-temps, elle est quand même devenue une capitale, la capitale en fait de l'électeur de Brandebourg, qui était Frédéric Ier, mais ça, il y a 2 siècles entre l'apparition du nom de Berlin au XIIIe siècle et le fait qu'elle devient capitale, que Frédéric Ier la choisisse comme capitale, le premier Hohenzollern.
Oui, pendant à peu près plus de 2 siècles, c'est surtout une ville qui est donc sur les marges, hein, et qui remplit une fonction surtout commerciale. C'est une ville d'entrepôt, comme on disait, c'est ce qui a fait la fortune d'ailleurs de la ville, qui faisait déjà fonction, si on veut, un petit peu de passage entre l'Est et l'Ouest du continent. Hein, c'est sa fonction essentielle qui est toujours présente actuellement. Et donc, par des hasards un petit peu de l'histoire, il y est vrai qu'il y a un prince, Hohenzollern, qui s'est retrouvé à Berlin, alors que à l'origine ils sont plutôt du sud de l'Allemagne, et donc ils ont été nommés là un petit peu par hasard au début du XVe siècle, et en fin de compte c'est une des grandes dynasties qui va s'imposer au niveau européen puisqu'elle va rester jusqu'en 1918.
Électeur de Brandebourg, ça voulait dire qu'en réalité il était électeur de l'empereur.
Absolument, il était un de ceux qui présidaient à l'élection de l'empereur allemand.
Et c'est au début aussi, enfin c'est au XVIe siècle déjà qu'elle devient protestante, ce qui a de l'importance pour l'avenir, c'est les Buffets.
Ah oui, ça va marquer, il est sûr que ça va profondément marquer sa mentalité, sa culture, même si il y aura une grande tendance à maintenir une grande tolérance, hein, même s'il y a eu des persécutions, notamment contre les juifs, à l'époque médiévale. Ensuite, on va adopter une politique de tolérance dans la mesure où la ville va avoir besoin justement de l'arrivée de populations extérieures, qu'elles soient catholiques de Silésie ou protestantes, mais même d'un autre culte, en provenance de France.
Alors c'est une ville qui, tout au long de son histoire, a souffert des guerres, qu'elle les ait subies ou provoquées, dans le cas de Hitler. Je ne savais pas qu'elle avait été
ravagée, enfin comme beaucoup de villes de la région, peut-être un peu moins, mais enfin ravagée par la guerre de 30 ans.
Ah oui, la guerre de 30 ans a été très très sévère pour Berlin, pour le Brandebourg d'ailleurs d'une manière générale, qui a perdu une partie plus que substantielle, on estime peut-être un tiers de sa population durant cette guerre, que la principauté a été ruinée. Et il a fallu réellement que, peut-être ça explique aussi le fait qu'il y ait une réaction ensuite des souverains Hohenzollern pour essayer de rattraper ce qu'ils avaient subi pendant la guerre de 30 ans et de ne pas reconnaître une telle infamie.
Et d'ailleurs c'est à cette époque qu'elle est occupée pour la première fois, parce qu'on se souvient de l'occupation soviétique, mais elle a été occupée aussi par les Français, nous le verrons, elle a été occupée par les Suédois à l'époque de la guerre de 30 ans.
Ah oui, tout à fait, elle a été occupée par les Suédois qui étaient à l'époque une des puissances principales d'Europe, notamment d'Europe du Nord, et qui concurrençait fortement le Brandebourg, qui avait des tendances à vouloir un petit peu s'émanciper justement des différentes tutelles qui étaient autour d'elle.
Alors, vous parlez d'une ville tolérante, Cyril Buffet. C'est aussi une des raisons pour laquelle c'est une ville qui, finalement, vous allez nous expliquer pourquoi, mais qui est peut-être la plus française de toutes les villes allemandes, puisqu'elle connaît une arrivée massive des Huguenots après la révocation de l'édit de Nantes à la fin du XVIIe siècle, en 1685. Là, effectivement, l'électeur de Brandebourg fait venir des protestants. C'est l'édit de Potsdam qui dit venez chez nous. Alors, ils payent moins d'impôts. Enfin, on invente toutes sortes de choses pour faire venir cette population française qui va représenter le quart de la population de la ville.
Oui, oui, c'est tout à fait exceptionnel. On peut dire que pendant un siècle, réellement, Berlin a été français. Le français était la langue qui était parlée parmi les élites. On imprimait les journaux en français. Je dirais, on vivait les modes françaises. En plus, comme vous avez signalé, l'importance de la population huguenote est si grande que cela a transformé le paysage urbain de Berlin. Il y a des tas de quartiers qui ont été construits pour permettre aux Français de s'installer. Les noms sont toujours restés. Ils ont acclimaté des productions agricoles qui n'existaient pas auparavant. Bon, ils ont apporté des tas de choses à la ville, ils l'ont aussi en grande partie policé.
Ce qui appauvrit la France, finalement, enrichit Berlin, enrichit même son vocabulaire. Je vois dans votre livre que vous avez consacré à Berlin, qui a été publié chez Fayard, des noms qui apparaissent à ce moment-là: purée, carotène, compote, fricassée, qu'est-ce qu'il y a encore? Blouse, costume, manchette, pèlerine, robe, etc. C'est assez étonnant, tous ces noms qu'ont apportés les Français avec eux.
On voit aussi les secteurs dans lesquels ils étaient les plus actifs.
Alors, à cette époque, peu de temps après, Berlin devient capitale de la Prusse, au temps de Frédéric III, et puis, surtout, un royaume qui atteint son apogée sous Frédéric II. Je crois que Frédéric II était le plus grand monarque ayant régné sur Berlin.
Ah, absolument.
À la fin du XVIIe.
On peut même dire que c'est l'un des plus grands monarques que l'Europe a connu. Hein. Alors, évidemment, c'est un monarque quand même d'ancien régime, qui est à la fois certainement éclairé, hein, c'est quelqu'un qui avait une intelligence plus que brillante, qui avait des capacités particulièrement développées, qui a su aussi profiter de ce que son père et son grand-père avaient fait, et notamment bâtir un État très solide, une administration rigoureuse, fiable, et une armée puissante, alors que ses prédécesseurs n'avaient pas utilisé. Mais on a souvent l'image de Frédéric II, c'est avec Voltaire, les salons, que c'était un homme parfumé.
À la fin du 18e, j'ai dit 17e tout
oui,
à l'heure.
Bien sûr, c'est le 18e, plein 18e. Ouais. Mais Frédéric II était un homme de guerre. Ouais. Il a fait de nombreuses guerres.
Bah, comme son père, hein. Il a militarisé la ville.
Alors, son père avait l'intelligence à militariser, mais sans l'utiliser. Ouais. Lui, il a utilisé l'outil que son père avait confectionné pour lui, et à tel point qu'il a agrandi à plusieurs reprises son royaume, et il l'a conforté.
Et puis surtout, il l'a ouvert plus que jamais encore à une influence française, puisque c'est une ville qui, sous Frédéric II, sera précisément plus française que jamais. Écoutez la revue de texte de Stéphanie Duncan.
Le despotisme éclairé de Frédéric II et son hospitalité aussi, tout simplement, attirent de nombreux visiteurs étrangers, notamment français, vous le disiez, et le plus prestigieux d'entre eux, c'est bien sûr Voltaire, notre Voltaire, qui séjourne à Berlin de 1750 à 1753. Cette capitale lui semble être le pays des fées. Qui aurait dit, il y a 20 ans, dit-il, que Berlin deviendrait l'asile des arts, de la magnificence et du goût? Les soupers du roi sont délicieux. On y parle raison, esprit, science, la liberté y règne. Mais, opéra, concert, lecture, mais, ajoute Voltaire, la ville de Berlin est grande, bien mieux percée que Paris, palais, reines affables, filles d'honneur belles et bien faites. Mais, le temps commence à se mettre un peu au beau froid. Bon, alors, il fait froid, l'hiver, c'est vrai, mais Voltaire connaît aussi des hauts et des bas à cause de sa relation passionnelle avec Frédéric II, qu'il appelle dans les bons jours son idole ou le Salomon du Nord. À la même époque, voici d'ailleurs le portrait peu flatteur que l'ambassadeur de France dresse du souverain. Le défaut particulier de ce prince est de mépriser les hommes. Il parle beaucoup et fort bien, mais il écoute peu. Le bel esprit est devenu sa marotte, il court après une réputation universelle. Il parle contre les vices, avec une éloquence à surprendre. Mais il est si peu conséquent que ses propos démentent un quart d'heure après ce qu'il vient d'avancer. Un autre visiteur français, le comte de Guibert, est impressionné par le caractère imposant de la capitale prussienne. Berlin, dit-il, est une ville immense, qui renferme beaucoup de champs et de jardins. Les rues sont grandes, droites et bien percées. Unter den Linden est une grande rue, plantée d'une double allée et bordée de belles maisons. Les soldats sont partout.
Et de tilleuls.
Ben oui, Unter den Linden. Berlin a l'air du grand quartier général d'une métropole militaire. Alors, bien des années plus tard, en 1804, le prestige de Frédéric II est tenace et Madame de Staël demande qu'on ne voit pas dans Berlin seulement qu'une vaste caserne. Ce qui doit intéresser à ce pays, dit-elle, ce sont les lumières, l'esprit de justice et les sentiments d'indépendance qu'on rencontre dans une foule d'individus de toutes les classes. Mais Madame de Staël regrette que cet heureux mélange ne s'étende pas encore à la société des femmes, qui à Berlin, dit-elle, n'est pas encore bien amalgamée à celle des hommes. L'état militaire leur donne une certaine rudesse. En 1806, les visiteurs français seront moins pacifiques, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque avec l'entrée dans Berlin des troupes napoléoniennes, et parmi eux, il y a l'écrivain Stendhal qui est là, oui, et de la ville de Berlin, il a une impression assez mitigée. Je ne sais pas qui a eu l'idée de planter une ville au milieu de tout ce sable, dit-il.
C'est assez... Bon, avant de parler peut-être de Napoléon, on y viendra tout de suite, l'éloge, au fond, du Berlin de Frédéric II, Cyril Buffet, des réactions de ce roi amateur, effectivement, de culture, ce roi qui a été aussi un roi architecte. C'est à son époque, par exemple, que le plus célèbre monument de Berlin, la porte de Brandebourg, a été construit.
C'est surtout un grand roi bâtisseur, oui. Hein, à l'image d'ailleurs de Louis XIV. Hein. Il a en grande partie donné une nouvelle image à la ville de Berlin. Bon, parfois d'ailleurs, les habitants s'en plaignaient. Il a notamment construit donc un opéra qui existe toujours. Il a agrandi des châteaux. Il a surtout aménagé son propre château qu'il voulait à côté de Berlin, à Potsdam, donc sans souci, où Voltaire a parfois séjourné, assez peu d'ailleurs, mais qui est une construction exceptionnelle, qui est très intéressante parce que elle, au contraire de Versailles, ce n'est pas un lieu de représentation. C'était réellement un lieu de repli pour lui. C'est pour ça que c'est assez petit. On a une impression plutôt de voir un nouveau Versailles, mais on s'y trompe.
Et la porte de Brandebourg, donc, dont j'ai appris en vous lisant, qu'elle était le symbole de la paix. Celle qui verra à côté d'elle se construire le mur, celle qui verra passer les chars russes bien plus tard, et même Napoléon, c'était la porte de la paix. D'ailleurs, c'est pour ça que le quadrige qui est au-dessus est tourné vers Berlin, je crois.
Absolument, oui. Maintenant, on a une impression inverse, parce qu'entre-temps, Berlin s'est nettement étendu, et donc on croit que le quadrige, et la déesse qui surmonte ce quadrige, est à l'envers de la ville. Mais non, à l'époque, la ville s'arrêtait là où était la porte de Brandebourg, et donc c'était la paix qui planait sur la ville.
Alors Frédéric II, roi bâtisseur et puis aussi roi musicien, puisqu'il était non seulement amateur de musique, mais également compositeur.
Thank you.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Et vous écoutiez un extrait du concerto pour flûte, orchestre à cordes et basse continue en ut majeur, avec une flûte qu'aurait très bien pu jouer Frédéric II, puisqu'il était flûtiste et qu'il jouait avec le fils de Bach, Carl-Philippe Emmanuel.
Il jouait très bien, d'ailleurs.
Il jouait très bien, hein, mais il était compositeur, c'est rare pour un monarque.
Oui, c'est rare, il faut quand même être honnête et dire que le fils de Bach, ou alors un autre de ses compositeurs favoris qui était Quandt, revoyait attentivement ses compositions.
Alors c'était l'époque où les Berlinois accueillaient encore avec plaisir des Français. En revanche, un peu plus tard, ce ne sera pas le cas, puisqu'à un moment donné, la ville sera occupée, Stéphanie l'a rappelé tout à l'heure, par Napoléon après la victoire d'Iéna. Et vous l'appelez même à ce moment-là, dans un chapitre de votre livre, vous appelez Berlin Napoléon-Bourg.
Oui, parce qu'il y a un camp qui a hébergé les troupes françaises pendant quelques mois, et on a rapidement donné, évidemment, on a germanisé un petit peu le nom de ce camp-là en l'appelant Napoléon-Bourg. Hein. Maintenant, il n'en conserve, il n'y a plus aucune trace. Hein.
Mais il s'est pas bien comporté, Napoléon. Il a emporté le fameux quadrige,
oui,
qui reviendra d'ailleurs en 1815 avec Blücher qui a battu Napoléon Waterloo, qui ramènera le quadrige là où il se trouve, donc au sommet, effectivement, de la porte de Brandebourg.
Il a pillé la ville, oui, on peut dire.
Et comment les Berlinois l'ont accueilli? Parce que Stendhal disait, en entrant dans Berlin, « Je rends grâce à Dieu d'être entré à Berlin avec mes pistolets soigneusement chargés. Napoléon marchait à 20 pas en avant des soldats. La foule silencieuse n'était qu'à 2 pas de son cheval. On pouvait lui tirer des coups de fusil de toutes les fenêtres. » Donc il avait un peu peur. Est-ce que les Berlinois l'ont bien accueilli?
Oui, je pense qu'il en rajoute un peu. Ils l'ont accueilli d'une manière très respectueuse. Il n'y avait aucun problème. D'une part parce qu'ils étaient sous le choc d'une double défaite qui avait complètement détruit l'armée prussienne. Hein. Tout le monde vivait encore sur les victoires de Frédéric II. Et là, d'un seul coup, on a vu que l'armée prussienne était en complète déliquescence. Et qui plus est, donc, ils respectaient le vainqueur. Même si, il est vrai que l'occupation, même au début, était relativement supportable, mais elle est devenue de plus en plus lourde.
Alors, on a parlé de beaucoup d'aspects de Berlin. On n'a pas parlé d'une ville révolutionnaire. Elle connaît sa révolution en 1848. Et puis, on verra que plus tard, effectivement, elle sera révolutionnaire. Et puis, ça devient aussi, en 1871, la capitale d'un empire. Mm-hmm. Hein, c'est proclamé à Versailles, assez curieusement, mais Berlin par Bismarck, et puis Berlin devient capitale d'un immense empire déjà, et puis une ville très industrielle.
Oui, bon, au 19e siècle, Berlin s'impose par rapport à Vienne. La grande concurrente de Berlin pendant le 18e et le 19e siècle, c'est Vienne. L'importance pour la Prusse et Berlin en particulier, c'était de s'imposer dans l'ère germanique par rapport au grand rival autrichien.
Alors, ville industrielle, vous le dites, avec beaucoup d'usines importantes, ville rouge aussi, naturellement, puisque c'est une ville de prolétaires, avec un parti socialiste qui, à la fin du 19e siècle, est très puissant et dont se méfient les empereurs. Écoutez un témoin de cette époque, enregistré en 1971, Richard Gossel.
Quand le SPD organisait une réunion dans un des faubourgs, il devait l'annoncer à la police. Et il y avait un agent de police qui surveillait cette réunion. Il écoutait ce qui s'y disait, et quand cela devenait critique, alors il se mettait en colère et remettait son casque. Au nom de la loi, je dissous l'Assemblée.
Je crois, Cyril Gosset, que Cyril Buffet, pardon, je crois que les socialistes ont représenté jusqu'à 75% de la population de la ville, enfin, en tout cas, aux élections.
Ah oui, tout à fait. Ils sont de plus en plus, au fil, justement, que la ville s'industrialisait, qu'elle se prolétarisait. Évidemment, ils ont constitué la seule véritable force politique à Berlin. Réellement, c'est devenu un des bastions de la social-démocratie allemande, et ensuite, d'ailleurs, du communisme en Allemagne.
Et elle devient même assez laide, aussi, vous parlez là encore de ville-caserne, etc. Enfin, c'est vraiment avec une architecture qui n'est pas très jolie, en tout cas celle qui apparaît à la fin du 19e.
L'architecture, il y en a deux types d'architecture. Il y a l'architecture, disons, officielle, wilhelminienne, qui, par exemple, le Reichstag actuellement, qui est, disons, assez pompeuse. Et une autre architecture beaucoup plus fonctionnelle, celle de ce qu'on appelle les casernes de location, que l'on peut encore voir parfois, et qui était destinée justement à loger, dans des conditions souvent misérables, la population ouvrière de Berlin.
Et puis une ville immense, hein, on l'oublie un petit peu, on s'est dit comment est-ce qu'elle a pu vivre, ça nous le verrons dans d'autres émissions, mais comment est-ce qu'elle a pu vivre coupée en deux, parce qu'on pense à Paris intramuros des 20 arrondissements. C'est une ville gigantesque à ce moment-là.
C'est une ville qui se transforme, hein, et à la fin du 19e siècle, à l'image peut-être de ce qui se passe aussi des projets qu'il y avait avait à Londres, à New York, à Bruxelles, etc. On va constituer, au début du XXe, ce qu'on appelait le Grand Berlin, hein, qui est une ville qui représente 8 fois la superficie de Berlin, de Paris, pardon.
En fait, c'est une véritable agglomération.
C'est une gigantesque agglomération. Ouais. Qui permet absolument... en plus, la population n'est pas aussi importante qu'à Paris. Le maximum, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a atteint 4,5 millions au début du XXe siècle, c'est 2 millions.
C'est pour ça que c'est une ville aussi pleine d'espaces verts encore aujourd'hui.
De lacs gigantesques.
On respire beaucoup, avec les grands espaces verts que l'on connaît, le Tiergarten, tout ça. Et puis une ville, en tout cas, qui allait souffrir de la Première Guerre mondiale, dans laquelle Guillaume II lance imprudemment son pays. Écoutez cette archive étonnante, puisqu'elle date de 1914, Guillaume II annonçant aux Berlinois qu'il est prêt à faire la guerre.
Nous ne supportons pas de rester là, ne rien faire, alors que notre loyal allié lutte pour sa renommée de grande puissance, et dont l'humiliation risque également de nous faire perdre notre puissance et notre honneur. L'épée doit maintenant en décider.
C'est étonnant, Guillaume II, donc en 1914, c'est une des plus vieilles archives dont on dispose. On pourrait peut-être rappeler les circonstances du déclenchement de cette guerre, annoncée aux Berlinois et puis au monde entier, bien sûr.
Oui. D'ailleurs, les Berlinois, pas plus que les Allemands, n'étaient tout à fait heureux de partir en guerre, au contraire de ce que l'on voit souvent. Hein.
Au début, vous dites que si, quand même, ils partaient la fleur au fusil, mais c'est très vite, effectivement.
Oui, parce qu'on pensait que ça allait durer 2 semaines.
Ouais. C'est comme en France, quoi.
Évidemment, en plus, il y a eu des restrictions assez rapidement à Berlin. Ils en ont souffert. Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. C'était que des restrictions relativement modestes.
Ils ont eu tabaga.
Oui, c'est ça. Ils ont eu des consommations un peu bizarres. Mais surtout, l'importance de la Première Guerre mondiale sur Berlin, c'est le fait que l'Allemagne, à la suite de la guerre, va perdre des territoires à l'Est. Et donc, Berlin, d'un seul coup, va être coupé de tout un hinterland économique qu'elle possédait auparavant. Et c'est là, pour l'histoire de Berlin, souvent on ne le sait pas, mais c'est la Première Guerre mondiale qui est décisive dans la mesure où, à partir de ce moment-là, elle va diminuer sur le plan économique. Et son influence va être restreinte et compensée par d'autres villes, Munich ou Francfort.
En tout cas, elle ne sera pas occupée, elle ne sera pas détruite pendant cette Première Guerre mondiale. Elle souffrira quand même suffisamment pour que la population se soulève, nous le verrons demain. Mais elle sera ravagée, en revanche, par la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce Berlin dont nous avons parlé avec vous, ce Berlin qui va du XIIIe au XIXe siècle?
Il reste surtout à Berlin-Est, enfin dans l'ancien Berlin-Est, oui. Puisque c'était...
peu de choses.
C'est le lieu d'origine de la ville. Il reste peu de choses. Il reste la géographie, si on peut voir, puisque à l'origine, c'était deux petites bourgades, dont une située sur une île. Donc ça reste toujours dans la géographie berlinoise. Il y a évidemment quelques bâtiments épars. Malheureusement, c'est surtout, au contraire de ce que l'on croit, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale qui a surtout détruit Berlin. Ce sont les promoteurs et les urbanistes du XIXe siècle qui ont ravagé la ville classique.
Et peut-être ceux qui, aujourd'hui, sont en train de reconstruire Berlin sur les ruines du mur. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, merci Cyril Buffet de nous avoir rappelé en 26 minutes 7 siècles d'histoire de Berlin. Une histoire que vous évoquez avec plus de détails dans un livre passionnant paru chez Fayard en 1993 et intitulé tout simplement Berlin. Et puis vous avez écrit également une autre histoire de Berlin dans la collection Que sais-je ? À lire également l'histoire de l'Allemagne de Joseph Revanche chez Point Seuil Histoire, et puis sous la direction de Lionel Richard, que je recevrai dans l'émission de demain, Berlin 1919-1933 aux éditions Autrement, série Mémoire. Vous avez pu entendre des archives sonores extraites de la très complète encyclopédie Bordas en 10 volumes, Mémoire du XXe siècle. Retrouvez la bibliographie de l'émission sur Internet, où vous pouvez aussi écouter les émissions que vous avez ratées en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ou bien en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33, 2,23 francs la minute. C'était Berlin, de la Prusse à l'Empire, à la technique Pierre Rayon et Arnaud Caillé. Documentation Rebecca de Nantes et Christina Huillarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, la suite de cette histoire de Berlin, le Berlin des années 20, la capitale de l'avant-garde, le Berlin de Brecht, de Kandinsky et déjà de Marlène Dietrich. Mais tout de suite, à 14h30, l'Ange Bleu de France Inter. Chris, bonjour Chris.
Attendez, j'enlève mon bas. Salut, à demain.
À demain.
Au revoir. Alors voilà, ça a commencé comme ça, hein. Écoutez.
Allô ? Allô, bonjour. Non, j'ai pas compris l'adresse pour Marie Morel, Regard, Petite Revue sur l'Art, 01-260. Après, j'ai pas compris. Et ça, j'aimerais savoir. Est-ce que vous pouvez me le dire pour que je puisse lui écrire ?
Voilà, alors, donc ça a commencé comme ça, et puis ça a continué comme ça.
Allô, juste une petite question. J'entends Marie Morel, là, en ce moment. J'aurais voulu savoir comment
allô,
on peut
bonjour.
Faire s'abonner à sa revue.
Je voudrais parce l'adresse que, de Marie Morel.
Est-ce qu'on peut la trouver sur Minix?
Eh bien, moi, c'était pour avoir des coordonnées de
Marie Morel.
Je
n'ai pas
Marie
pu prendre
Morel.
Les références de la revue
voilà.
Regard.
Les passer à l'antenne, quand on les a.
Non,
merci,
les
au revoir.
Écoutez, les
non, madame, c'est pas des histoires, mais je viens d'écouter votre émission qui est passionnante. Et cette Marie Morel, l'adresse où on peut trouver la revue Regard.
01-260, le petit hébergement, je ne vois pas du tout la
s'il vous plaît, vous avez... ça peut être.
Vous avez parlé d'une revue, là, j'ai écouté l'émission, et il me manque apparemment le nom du village.
Bon alors attendez, d'accord, ça va pas du tout. Alors vous préparez un crayon pendant que je vous explique. Mon répondeur perso, c'est le 01 42 30 14 60. C'est pour que vous posiez des questions à l'invité, sans savoir d'ailleurs sur qui elles tomberont. C'est pour me raconter des trucs marrants, c'est pour intervenir dans l'émission à votre façon. Mais pour avoir les adresses et les compléments d'infos sur les invités que j'avais donné pendant l'émission et que vous n'aviez évidemment pas noté, vous faites le 08 36 68 10 33 ou alors Minitel 36 15 France Inter. Ça marche très bien, ils ont toujours toutes les infos et même parfois ils en ont plus parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de dire dans l'émission et qui sont quand même sur une fiche, les dates des tournées, enfin des choses comme ça. Donc exceptionnellement, à la demande générale, mais c'est la dernière fois que je le fais, je redonne les coordonnées de Marie Morel, Regard. La plus petite revue d'art, 01 260, le petit hébergement. Mais je le ferai plus jamais parce que désormais vous appelez le 08 36 68 10 33 pour ça ou Minitel 36 15 France Inter. Bon allez, une dernière fois, Marie Morel, Regard, la plus petite revue d'art, 01 260, le petit hébergement. On peut commencer l'émission.